Bonsoir mes frères et sœurs. C'est votre prière? Alors nous allons poursuivre ce que nous avons partagé mardi dernier, à savoir ce sujet, votre esprit est-il en bonne santé? Et à la fin, je vous donnerai du travail pour la semaine prochaine. Est-ce que ça vous convient? Je vais vous donner 7 ou 8 passages que vous allez travailler. Je crois que c'est la première fois depuis 35 ans que je suis pasteur que je le fais. Mais franchement, je pense que vous y serez bénéficiaire vraiment, de méditer les quelques versets que je vais vous demander de méditer chez vous. Dans l'Épître à Philémon, alors si vous vous rappelez la semaine dernière, je ne vais pas faire le résumé, parce que si je fais un résumé, ça nous empêche de faire durer la prédication comme il le faut, surtout que ça a été enregistré. On a parlé de l'esprit en bonne santé. Donc là, on va voir dans Philémon. Philémon, c'est juste une petite épître, juste avant l'Épître aux Hébreux. Et le dernier verset de cette épître à Philémon, le verset 25, nous dit quelque chose. C'est une prière qu'on appelle une prière d'accompagnement, mais qui en dit long sur la santé de l'esprit. Parce que vous savez, nous avons un corps. Vous prenez soin de votre corps? Vous aimez prendre soin de votre corps? Oui, mais c'est bien. Après, notre âme, c'est tout ce qui est psychique. Et puis, il y a l'esprit. L'esprit, c'est ce qui est spirituel. Et beaucoup de chrétiens ne s'occupent pas de leur esprit. Ils ne se nourrissent pas, leur âme n'est pas restaurée. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont faibles au niveau de leur foi. Donc dans ce texte, Philémon verset 25, il nous est demandé quelque chose par rapport à notre esprit. C'est bien spécifié, vous y êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ce n'est pas avec votre âme, avec votre esprit. Donc un esprit plein de grâce. On parle du baptême du Saint-Esprit, ça va nous amener à une vie à comprendre vraiment ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Ce texte nous dit que notre esprit peut être plein de grâce. C'est un bonheur lorsque l'esprit d'un homme est envahi de grâce. Ce texte nous parle quoi? Eh bien de bénédiction. On aime tous la bénédiction. Et l'esprit du croyant doit baigner dans la grâce de Dieu. Vous avez tous vu des croyants qui sont pauvres en esprit, enfin pauvres, qui sont pauvres spirituellement parce qu'ils ne reçoivent pas la grâce de Dieu. Et là, c'est clair, c'est une prière, mais c'est une bénédiction que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Un chrétien, il doit être dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien a son esprit dans la grâce de Dieu? Tiens donc, à quoi se reconnaît un chrétien qui a développé une communion avec Dieu qui fait que son esprit est dans la grâce de Dieu? Eh bien, on va le lire dans Éphésiens chapitre 4. Ça, c'est des fruits. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est une prière. Mais dans Éphésiens chapitre 4, vous avez l'explication au verset 29. Parce qu'on reconnaît un arbre, à quoi on reconnaît un arbre? Aux fruits. Donc normalement, on va terminer tout à l'heure avec cela, mais je vais surtout terminer en vous donnant des versets que vous devriez travailler. Parce que je crois que les chrétiens, des fois, ils s'attendent tout du pasteur, et ils ne prennent pas suffisamment le temps de méditer la parole. Donc regardez, Éphésiens chapitre 4, verset 29, vous avez là ce qui se passe lorsque quelqu'un reçoit dans son esprit la grâce. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si votre esprit est envahi de grâce, lorsque vous parlerez, vous communiquerez la grâce. Vous avez vu, une parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc quand nous parlons, est-ce que nous communiquons la grâce aux autres? Est-ce que nous communiquons la paix? Est-ce que nous apportons cette vie de bonté? C'est bien quand quelqu'un fait du bien, non? Vous aimez faire du bien? Et voyez que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. On devrait vraiment s'interroger. Tiens, mais qu'est-ce que c'est qui sort de ma vie? Tout à l'heure, nous allons discuter avec les uns, avec les autres. On va rentrer à la maison. Demain, on va côtoyer des gens. Il se peut même que nous loupions dans un propos. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous vous loupiez dans une parole vis-à-vis de quelqu'un? Qu'est-ce que vous feriez immédiatement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des propos? Qu'est-ce que vous feriez de suite s'il y a la grâce? Ben voilà, Je te demande pardon, je te dis ça, vraiment, je suis même presque choqué de t'avoir dit ça. C'est ça la grâce, et ça communique bien sûr une grâce. Un chrétien, il doit communiquer la grâce. À quoi reconnaît un chrétien qui est rempli de grâce? Eh bien, c'est inévitable. La Palice l'aurait dit ainsi. Dans Colossiens, un petit peu plus après, il y a Éphésiens, Philippiens, Colossiens, au chapitre 4, verset 6. Colossiens, chapitre 4, verset 6, c'est un petit peu dit différemment, mais c'est quand même la même chose. Regardez comment c'est bien. Colossiens, chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Je relis. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et tout ça, bien sûr, ce n'est possible que si notre esprit est rempli de grâce. On peut faire la comédie un petit peu, mais ça ne peut pas durer. C'est pour cela que Paul dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Mes frères et sœurs, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit pendant le culte et dans la rue, être désagréable et être méchant, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous devons dire, eh bien, je m'approcherai du trône de la grâce, je recevrai cette grâce dans mon esprit et puis mon âme sera au bénéfice de cette grâce et je la transmettrai aux autres. Voilà ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui s'approchent de Dieu, dans la présence de Dieu, le cantique l'exprimait très bien. C'est pour cela qu'un esprit peut être capable de faire du bien, parce que je crois que c'est quand même le but dans une église. Qu'est-ce que c'est qui caractérise les chrétiens dans une église? C'est que les chrétiens, ils sont en paix. Et quand on se retrouve, eh bien, on se procure la paix. Est-ce que vraiment vous croyez que c'est ça l'église? Ben oui, c'est ça. L'église, c'est quoi? On chante des cantiques, parce que la Bible dit « Entretenez-vous par des cantiques spirituels ». On partage la Sainte-Cène, parce que c'est quelque chose que le Seigneur a institué. On célèbre la parole de Dieu, comme on est en train de le faire. On partage la prière, parce que l'église est une maison de prière. Et puis après, on se procure la paix, parce qu'on reçoit la grâce de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est extrêmement lié à cette présence de Dieu qui produit la grâce dans le cœur d'un homme. On va voir un autre sujet, dans Philippiens, au chapitre 1er. Ce sont des textes que je vous... c'est des ébauches, vous pouvez les poursuivre quand même, ça c'est des choses que vous pouvez poursuivre. Dans Philippiens, au chapitre 1er, et au verset 27, regardez ce qui nous est demandé. Regardez bien mes frères et sœurs, ce sont des textes qu'on a souvent zappés, et pourtant, quand on veut être baptisé du Saint-Esprit, on devrait peut-être s'arrêter à toutes les exhortations liées à la vie de l'Esprit. Croyez-moi, Philippiens chapitre 1er, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant, d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Je relis. « J'entends de dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Ce texte nous parle de l'unité de l'esprit. Un chrétien, il doit communiquer la paix. D'ailleurs, il y a un texte d'un Pierre 3,4 qui parle d'un esprit doux et paisible, même si on doit être ferme, même si on doit être sérieux et sévère dans certaines circonstances, il n'empêche qu'un chrétien communique un esprit de paix et de douceur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un esprit de douceur. Qu'est-ce que c'est qui est descendu sur Jésus le jour de son baptême? Qu'est-ce qui est descendu? Une colombe qui parle de douceur. Un esprit agité, ça vous est déjà arrivé d'être agité? Jonathan disait, ça vous est arrivé de vous inquiéter une fois dans votre vie. J'aimerais connaître la personne qui s'est inquiétée qu'une fois dans sa vie. Ça peut nous arriver régulièrement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure longtemps. Mais un esprit agité, un chrétien qui est agité, qui est confus, qui est troublé continuellement, qui est angoissé, est-ce qu'il peut être sensible au Saint-Esprit? Bien sûr que non. Ça fait obstacle. Si le Seigneur nous demande d'avoir un esprit doux et un esprit paisible, c'est pour faciliter la réception du Saint-Esprit. Et ce texte nous parle, regardez bien ce texte. N'oubliez pas qu'on est en train de voir, depuis mardi dernier, toute une palette de comportements spirituels qui indiquent si un homme est en bonne santé spirituelle. Les croyants ont besoin d'être unis les uns aux autres. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qu'il a dit le texte ? J'entends de dire que vous devenez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi dans l'Évangile. Les chrétiens ont besoin d'être unis dans la vie de l'esprit. Les croyants spirituels, écoutez bien, c'est ce que je vais vous dire, parce que quand même il y a beaucoup de divisions dans les églises, de dégâts dans les églises qui sont le résultat de ce manque de vie, d'unité de l'esprit. Les croyants spirituels sont unis. C'est pas possible autrement. Quelqu'un qui est spirituel n'aura aucune difficulté à s'unir avec quelqu'un de spirituel, quel que soit son caractère, sa personnalité. Si beaucoup de gens n'arrivent pas à s'unir, n'arrivent pas à prier ensemble, n'arrivent pas à se retrouver dans cette unité de l'esprit, dans ce lien de l'esprit, la Bible parle souvent des liens, et c'est d'une façon positive d'ailleurs, le lien de l'esprit, on est unis ensemble, parce que c'est archi important d'être unis. Dans une église, s'il y a des combats, il y a des combats. On a des combats personnels, mais il y a des combats collectifs, il y a des combats nationaux, il y a des combats dans une région, etc. Il y a des combats dans une église. Par exemple, il peut y avoir des gens malades. C'est un combat, il faut qu'on s'unisse ensemble. Et l'unité d'esprit, si le Seigneur en parle. Parce que moi, n'allez pas me dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas prier avec quelqu'un d'autre qui est rempli du Saint-Esprit. Moi, je trouve que c'est... Je l'ai vu, ça, moi. Des gens qui étaient soi-disant très, très, très spirituels et qui ne voulaient pas aller à l'église pour prier parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ci, pas d'accord avec là. Moi, je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, on s'unit avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, comme l'explique ce texte. C'est archi important parce qu'il n'y a pas que la paix, il y a les combats. La Bible parle de paix, la Bible parle de combat. Mais dans l'église, pour combattre, il faut être d'abord dans la paix. Dans le monde, on se bat pour avoir la paix. Bon, c'est le monde. Mais dans l'Église, on ne se bat pas pour avoir la paix. Il faut d'abord être dans la paix pour combattre le bon combat de la foi. Et l'unité fait que nous n'avons pas de mal à nous unir pour prier ensemble. Vous trouvez que c'est normal dans une Église où les gens ne veulent plus se réunir pour prier ? Où il n'y a plus de réunion de prière parce que les gens ne s'entendent pas ? Il y a un problème. Il y a un gros, gros problème. Parce qu'on n'a pas fait en sorte que notre esprit soit uni avec l'esprit des frères et des sœurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'esprit qui domine, c'est le psychique. C'est-à-dire les émotions, les sentiments, l'intellect, les idées, etc. Ça prend le dessus. Si notre âme prend tout ce qui est psychique, prend le dessus sur l'esprit, je ne pourrai pas m'unir avec les frères et sœurs. Béni soit Dieu pour nos personnalités. Nous avons tous des personnalités plus ou moins fortes. Il y a des gens qui ont des fortes personnalités, il y a des gens qui ont un fort caractère, il y a des gens qui se démarquent des autres, mais ça fait rien. Si l'esprit de chacun est rempli du Saint-Esprit, tout ça, on en fait même basse et on s'unit. Ça fait que quelqu'un qui a une très forte personnalité peut s'unir dans la prière avec quelqu'un qui est peut-être plus faible. C'est pas grave. Le lien de l'esprit. Et ça, dans une église où on est rempli du Saint-Esprit, je pense que c'est la norme d'une église en bonne santé. On a des caractères, des personnalités différentes, on vient de milieux différents, les uns ont eu beaucoup d'éducation, les autres sont plus limités, etc. C'est pas grave. Est-ce que c'est grave ? Non. On s'unit ensemble et c'est important ça. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Je développe et je comprends. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux vous faire partager certains versets chez vous. Toute la semaine, vous allez prendre votre concordance et vous allez méditer, vous allez voir des choses, vous allez comprendre ce que c'est être vraiment rempli du Saint-Esprit et vous verrez que vous n'aurez pas de mal à développer cette vie de l'Esprit. Merci Seigneur pour nos émotions, merci pour notre intellect, mais ça doit être un second plan. Moi j'ai vu des gens qui disent « moi je ne vais plus à l'église, je ne vais plus prier, les gens ce sont tous des ignorants ». Eh bien, béni soit Dieu, si le gars il était supérieur, moi je ne sais pas, moi il me semble que si je recevais un peu plus que les autres, ben, j'aimerais, si je suis rempli du Saint-Esprit, je crois que Dieu me conduirait à partager ce que j'ai reçu. Vous ne croyez pas ? Comment vous le voyez, vous ? Si vous avez 5 talents et que votre voisin n'en a qu'un,
C'est pour que vous vous compariez. Et lui, mais toi, t'es qu'un idiot, t'as qu'un talent. Moi, j'en ai 5, t'as pas vu? Je crois que là, on est loin de la vie de l'esprit. Quelqu'un qui a reçu, eh bien, il va partager avec l'autre. Vous le voyez comme ça? C'est biblique. Dieu ne donne pas de l'autorité, des talents, des compétences pour en imposer. Jamais. Dieu nous donne des grâces, des faveurs et son esprit pour le partager. C'est ça ce que dit, c'est ce que veut dire ce verset. C'est important. Et veillez à votre caractère, à votre personnalité, à vos différences. Il y en a, c'est bien, heureusement qu'on est tous différents. Même au ciel, il y aura des milliards de personnes, j'espère, et on sera tous différents. Il n'y aura personne qui se ressemblera. Les clones, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Si notre, je le répète quand même, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que quand on fait des progrès, en plus, notre personnalité peut faire des progrès. Quand on fait des progrès, notre caractère peut faire des progrès. Nos sentiments peuvent s'améliorer, etc. Mais si la personnalité, le caractère, les sentiments, les différences nous empêchent d'être spirituels, moi je pense que là, et qu'en même temps on veuille développer la vie de l'esprit, je pense qu'il va y avoir un gros problème. Que Dieu soit béni pour nos caractères, pour nos personnalités, etc., je ne le répète pas. Mais d'abord, nous sommes en paix, il y a des combats, et je veux être uni avec mes frères et sœurs. Ça, c'est la vie de l'esprit. Croyez-moi, frères et sœurs. À quoi on reconnaît une église en bonne santé? Tout cela, on en fait abstraction. Au contraire, on le développe. Si vous aimez le bleu, parce que avant votre conversion, vous aimez le bleu. Après la conversion, vous n'allez pas ne pas aimer le bleu. Dire non, moi, j'aime plus le bleu, j'aime le blanc, parce que c'est l'image de la sainteté. Moi, mais peut-être que vous préférez le vert. Imaginez-vous des gens qui se disputeraient pour des couleurs. J'ai vu, moi, ça dans une église. Des gens qui se sont disputés pour les rideaux de l'église. Les gens voulaient des verts, un vert cacadois, l'autre, il voulait un bleu foncé. Les chrétiens se sont disputés pour la couleur des rideaux. Franchement, comment vous trouvez ça? C'est ridicule. Moi, j'aurais fait bleu, vert, rose. Voyons, on fait un truc. Non, mais sérieusement. Moi, non, on confie ça à quelqu'un qui a du goût. Il y a des gens qui ont du goût, on le sait. Il y a des femmes dans les églises qui ont du goût pour décorer. Eh bien, on leur laisse ça. Mais quand on en arrive à se dire baptisé du Saint-Esprit, à faire une fixation sur le baptême du Saint-Esprit et à se disputer pour la couleur des rideaux, moi je dis que là, le caractère a pris le dessus sur le spirituel. On reconnaît un arbre aux fruits. L'esprit ferme, comme dit Paul, on le relit ce verset, vous voyez, après ce que je viens de vous dire, que j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Pourquoi? Eh bien, pour combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Voilà, l'esprit ferme. On a parlé de l'esprit doux, on a parlé de l'esprit brisé, vous rappelez, de l'esprit qui se réjouit en Dieu le Sauveur. Là, on parle d'un esprit ferme qui permet de combattre le bon combat, de dépasser toutes ces contingences qui sont ridicules quand ça domine. Vous savez, moi, quand j'entends souvent, moi, je ne vais plus à l'église parce que je ne m'entends pas avec les frères et sœurs. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Oui. Mais c'est vrai. Mais le caractère, le psychisme a pris le dessus sur la vie de l'esprit. C'est dommage, vous voyez. Ce sont des petites choses, mais c'est pour ça qu'on doit s'interroger. Et je peux vous dire qu'au bout de toutes ces études, si on est droit devant Dieu, droit devant la parole, je peux vous dire qu'on sera tous baptisés du Saint-Esprit, équilibrés, et on amènera tous la bénédiction sur l'Église. Car moi, je crois que plus les ténèbres s'épaississent, ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, plus les ténèbres s'épaississent, plus nous devons briller, être une source de bénédiction, et montrer aux gens que la vie de l'Esprit, c'est une bénédiction. Vous vous rendez compte, mais ce que je vous dis, vous n'allez peut-être pas tous le croire, mais moi j'ai entendu des gens, mais quand je vois cette personne parler en langue, moi j'ai pas envie d'être rempli du Saint-Esprit quand je vois son caractère de cochon. Vous l'avez jamais entendu ça? Pas ici, mais tant mieux. Mais moi je l'ai entendu. Et je crois que nous avons la responsabilité, nous les chrétiens, d'être des sources de bénédiction. Se laisser inonder par le Saint-Esprit, c'est une des plus grandes bénédictions. Pourquoi? Parce que la vie est là, la victoire est là, la liberté est là. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qui est écrit? Là est la liberté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. À méditer quand même, à méditer par rapport à l'unité. Parce que je ne sais pas votre caractère, si vous pousse à être
utile dans l'Église ou si vous éloigne de l'Église. Bon, si on est là, normalement, c'est qu'à nous, notre caractère, puisqu'on est là ce soir, vous voyez. Mais c'est une bonne chose quand on se dit, non, moi je suis très différent de mes frères, mais je prierai avec eux. Et ça, je peux vous dire que ça plaît au Seigneur. Un troisième texte que nous n'avons pas eu l'occasion de voir la semaine dernière, Luc 1, 80. Si vous mettez tous les textes que je vous ai apportés depuis dimanche, mardi dernier, vous allez voir que ça fait beaucoup de traits de la vie de l'Esprit. Luc 1, 80. Alors, il nous est parlé de quelqu'un de bien. Luc chapitre 1, verset 80. Regardez ce qu'il nous est dit de l'esprit de cet enfant. Luc 1, 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où eh bien, le plan de Dieu se commença. Il était dans le désert. Ça peut arriver. Vous avez remarqué toutes les fois, quand même, où il est parlé des déserts. C'est impressionnant, quand même. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Ne vous traumatisez pas si vous traversez un moment difficile. Vous pouvez être dans un désert et en même temps dans une oasis, bien, bien à l'ombre. Donc, qu'est-ce que faisait l'enfant dans le désert? Vous avez vu la semaine dernière, on avait vu dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait, David? Vous m'aidez? Il a tout envoyé balader, non? Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait Dieu. Il ne cherchait pas la bénédiction, il cherchait Dieu. Là, nous avons, et c'est un enfant. Spirituellement, ça veut dire qu'au début de notre vie chrétienne, les premiers mois, les premières années de notre vie chrétienne, eh bien, on peut faire des progrès. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Notre esprit doit grandir. C'est quelque chose, c'est un impératif, ça. Je me rappelle, j'avais lu un bouquin d'un pasteur au Brésil, je crois que c'était Amérique du Sud. Il avait eu une vision, parce qu'il avait demandé, mais comment est l'Église? C'est un homme qui se souciait de la croissance de l'Église. Et il avait fait un rêve qui venait de Dieu, parce que bon, je vous le résume. Et tous les chrétiens dans l'Église étaient des bébés avec un biberon. Toute l'Église, c'était des bébés qui tétaient le biberon. Ça, il a dit, voilà comment est ton Église, le Seigneur lui a dit. Et il n'arrivait pas à la faire croître parce que les gens venaient que dans le but de recevoir, comme des enfants qui veulent recevoir, c'est tout. Et ça a été toute une lutte, tout un combat pour amener l'Église à mûrir. D'ailleurs, c'est écrit, on peut le lire, regardez le texte, mais regardez, c'est dans les Hébreux, alors c'est au chapitre 5. On voit quand même un constat qui fait de la peine. Bon, on ne sait pas qui a écrit les Hébreux. Moi, je pense que c'est Paul, mais enfin, bon, qu'importe, c'est pas grave. C'est le Seigneur qui a dicté. Hébreux chapitre 5, au verset 12 à 14, on voit la souffrance de cet homme de Dieu et puis la souffrance du Seigneur. Regardez ce qu'il leur dit. C'est pour cela que nous devons, moi aussi quand même, enfin, je veux dire, je suis avec vous, est-ce que nous faisons les progrès que nous devons faire? Hébreux 5, verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Donc un chrétien, il peut, voyez, développer une... Il parle à des chrétiens, là, il ne parle pas des pasteurs. Il parle à tout le monde. Donc tous les chrétiens pourraient être des hommes et des femmes capables d'être des enseignants, vous voyez, dans la Bible. Vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Vous savez qui c'est qui est à l'école élémentaire, hein? Des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, voyez, un chrétien spirituel, déjà ce soir, s'il écoute une prédication comme celle-ci, il est capable de discerner si c'est équilibré, si c'est sérieux, de suite. Un chrétien qui est charnel, il croit n'importe quoi. Un pasteur derrière moi viendrait et prêcherait l'inverse, il le goberait. Vous voyez? On revient à notre Luc 1, 80. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Un chrétien me disait ce matin, mais moi j'ai lu... Mais regardez un peu. Il me disait, mais la Bible, il faut la lire plus d'une fois. Et je croyais qu'il plaisantait, moi. J'ai dit, mais oui, moi j'ai lu le Nouveau Testament une fois, puis comme j'ai lu une fois... Je ne le lis plus. Il me dit, vous l'avez lu?
Mais je dis, mais moi, je le lis 2-3 fois par an, la Bible. Mais depuis que vous êtes converti, vous l'avez lu 2-3 fois par an? Je dis, mais oui. Il ne le croyait pas. Ah, mais il faut la lire plusieurs fois. Je dis, mais comment voulez-vous que votre esprit grandisse? Mais vous savez qu'au début, je croyais qu'il plaisantait. On ne peut pas grandir si on ne mange pas. On ne peut pas grandir si on ne se désaltère pas. Et un chrétien, il grandit comment Jean-Baptiste grandissait? Pourquoi? Eh bien, en esprit. Eh bien, parce qu'il se nourrissait des choses de Dieu. Il avait vraiment une recherche des choses de Dieu. Un chrétien, un véritable disciple, il s'applique à grandir. Il s'applique à faire des progrès, en sorte que sa vie spirituelle soit fortifiée. Il n'est pas là, assis entre deux chaises, comme Élie disait, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Il faut choisir. Il faut choisir le monde, ou il faut choisir Dieu. Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis? Mais ouais, Josué dit, mais choisissez qui vous voulez servir. À un moment donné, il faut dire, mais c'est vrai, il faut que je sois ou un vrai chrétien, ou un vrai païen. Bon, il vaut mieux choisir quand même d'être chrétien, mais c'est Dieu qui nous met devant ce choix. C'est pas moi, c'est Dieu qui le fait, j'oserais pas le faire si c'était pas écrit dans la parole de Dieu. Un esprit fortifié, c'est un esprit qui contrôle son âme. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la personnalité, au caractère, aux émotions, etc. Mais un esprit fortifié, c'est un esprit qui contrôle son caractère, qui contrôle ses émotions, qui contrôle ses sentiments. Voilà, un esprit fortifié, il le sait. J'ai eu un conflit avec Jonathan, le stagiaire. J'ai eu un problème. Qu'est-ce que je vais dire? Oh ben, quand j'aurai la force, je lui demanderai pardon. Ou quand je serai mieux, je lui demanderai pardon. Non, on demande pardon de suite. Le pardon, ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment. Le pardon, c'est une question de volonté. Est-ce que vous comprenez? Et un esprit qui est fortifié, il le sait. Il n'attend pas quand ça se présentera, je demanderai pardon. Non, un esprit fortifié est un esprit qui contrôle son âme et qui contrôle toute sa vie psychique. Regardez ce proverbe, dans Proverbe 18. Mes frères et sœurs, je vous assure, si on fait ces choses, on sera tous inondés de la vie de l'esprit, tous, c'est sûr et certain. Alors, Proverbe 18, je n'ai pas pris le temps, peut-être il faudra que je le fasse, de bien expliquer la différence entre ce qui est psychique, c'est-à-dire de l'âme, et ce qui est de l'esprit. D'ailleurs, vous avez vu que la parole, c'est une épée qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Et c'est pas, des fois, ça se mélange, mais c'est pour ça que c'est important de le faire. Alors, Proverbe 18, verset 14. Proverbe, regardez bien l'importance de ce simple proverbe. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que le Saint-Esprit peut fortifier votre esprit. Vous rappelez le verset que j'ai cité dimanche dans la prédication, quand Jésus, on parlait, vous savez, de ces cantiques-là qu'on a chanté tout à l'heure, de montrer sa bonté, sa grandeur. Quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Oui, on pourrait passer la soirée là-dessus. La bonté de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et il ajoute quoi? Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, eh bien, il est orphelin. Non? Vous le voyez comme moi? Je ne vous laisserai pas orphelin, mais quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui se prive de la vie de l'Esprit est comme un orphelin. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui se démènent. Parce qu'ils sont comme des enfants tout seuls. Mais lorsque l'Esprit de l'homme est envahi de l'Esprit de Dieu, parce que c'est le seul endroit où Dieu peut habiter dans un homme. On dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, mais parce que l'Esprit est dans notre corps. L'Esprit de l'homme ne peut être habité que par l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas dans le corps et Dieu n'est pas dans l'âme. Dieu, il est dans l'Esprit. Il faut que notre esprit soit fortifié par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans Éphésiens, regardez. Dans Éphésiens, c'est une prière, l'apôtre Paul est en prison, il fait une prière extraordinaire. Regardez bien cette prière. Et moi, je vous conseille, franchement, mes frères et sœurs, de bien noter ces textes. Et après de dire, Seigneur, moi, ce qu'on a partagé ce soir, je veux le vivre. Il m'est arrivé d'être malade. Ça peut arriver d'être malade? Vous avez vu ce qu'on a lu?
lorsqu'un homme vraiment a l'esprit de Dieu qui fortifie son esprit, et bien dans la maladie, il est soutenu. Et c'est bien. Vous ne trouvez pas que c'est bien? C'est bien quand notre esprit est en bonne santé. Moi, je me rappelle quand j'ai fait l'AVC, je vous assure, c'était une expérience extraordinaire et que la neurologue a dit, mais à ma femme et votre mari, il ne passera pas la nuit. Mais moi, j'étais heureux et content parce que je me dis, Seigneur, en plus, tu me préviens. Merci, Seigneur. Vous voyez, bon, ça n'a pas marché quand même. Mais je veux dire, je vous assure devant Dieu, je savais que c'était le Saint-Esprit qui réjouissait mon esprit. Ça ne venait pas de moi. Je veux dire, j'aurais pu quand même avoir un peu peur. Eh bien, non. Éphésiens, chapitre 3, verset 13. Verset 12, il faudrait lire jusqu'au verset 20. Notez, vous qui prenez de notes, faites-vous plaisir. Méditez cette prière de l'apôtre Paul, parce qu'il y a des combats. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 12, en lui, donc en Jésus, nous avons par la foi en lui, donc en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc pourquoi ? Alors regardez bien. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Les chrétiens d'Éphèse étaient malheureux parce que l'apôtre Paul était en prison. Vous seriez malheureux si j'étais en prison? Ça dépend pourquoi, remarquez. Ouais, mais ça dépend pourquoi. Si c'est parce que j'ai prêché l'évangile, vous seriez malheureux. Si c'est parce que j'ai tué quelqu'un, vous diriez, bon, il a bien cherché. Oui ou non? Bon, mais l'apôtre Paul, il avait prêché l'évangile. Alors les chrétiens étaient malheureux, il leur dit, mais surtout ne vous découragez pas, parce que vous savez le découragement? C'est pas bon signe, le découragement. Le découragement, ça vient jamais de Dieu. Il y a plein d'épreuves qui viennent de Dieu, mais le découragement, croyez-moi que non. À cause de cela, qu'est-ce que fait Paul? Il est en prison. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, il glorifie le nom du Seigneur. Regardez bien, frères et sœurs. Afin qu'il vous donne, Dieu donne, c'est pas compliqué, Dieu donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, E majuscule, dans l'homme intérieur. C'est comme s'il était écrit, afin que vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit dans votre esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand on s'approche de Dieu, et qu'on le fait par la foi, et qu'on réalise qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on lit, qu'on prie, qu'on a confiance, si vous n'avez pas confiance, c'est que vous êtes des religieux. La confiance, c'est quelque chose qui vient parce que vous ne pouvez pas ne pas faire confiance. Il est digne de confiance. Eh bien, le Saint-Esprit fortifiera votre esprit, votre homme intérieur. C'est cela que Paul expérimentait. C'est pour ça qu'il se disait, mais je me réjouis des afflictions, je me réjouis des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout ça était sous le contrôle de Dieu. Il y a des gens, dès qu'ils ont une épreuve, ça y est, je ne sais même pas si Dieu existe. Attendez, mais vous... Oui, mais je ne sais pas si Dieu m'entend, si Dieu m'aime. Ah d'accord. Vous voyez, ça, c'est pas la foi. Ça, c'est les émotions qui prennent le dessus. Dieu vous aime, que vous soyez en bonne santé ou pas. Dieu vous aime. Ça vous intéresse d'être fortifié par le Saint-Esprit? Alors, l'explication, elle est peut-être dans le verset qui va suivre, dans 1 Timothée, au chapitre 4. Voilà, peut-être c'est là que commence vraiment une vie de l'Esprit. On a vu une dizaine de textes qui vous indiqueront si votre esprit est en bonne santé. C'est imparable ce que je vous dis. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, il y a un effort. Cet effort, on va le mettre en place. Je vais vous donner quelques versets que vous allez absolument, absolument méditer. Et vous allez voir dans la présence de Dieu, vous serez baptisés chez vous-même du Saint-Esprit. Regardez bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ce jeune pasteur? Exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile. N'oubliez pas qu'à l'époque, ils faisaient tout à pied. Donc, je veux dire que là, l'exercice corporel, c'était peut-être pas utile. Vous savez, si vous deviez rentrer chez vous à pied ce soir et revenir dimanche au culte, mais l'exercice, ils en faisaient. Il n'est pas dit que l'exercice corporel est inutile. L'exercice est excellent. Mais en comparaison de l'exercice spirituel, bien sûr, c'est peu de choses. La piété est utile. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Regardez bien, la piété est utile à tout. Regardez bien, qu'est-ce qui est décrit dans ce verset? Que la piété, elle a la promesse de quoi? Regardez bien, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez ce que l'on lit. Moi, je sais que les chrétiens, souvent, ils sont contents parce que c'est des promesses, mais ils ne réalisent pas ce que ça représente. Lorsqu'un homme vit ce que l'on a partagé mardi dernier et aujourd'hui, lorsqu'il se met à s'exercer à ces choses, c'est-à-dire à les développer, à dire oui, je les crois, je les vis, je m'approcherai du trône de la grâce parce que je suis tout le temps faible, quand je suis malade, je remets tout en question. Non, quand je suis malade, l'Esprit de Dieu dans mon esprit me soutient. La piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Vous pouvez dire alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que si nous vivons ces choses d'une manière équilibrée, parce qu'en plus c'est ceux qui, franchement, des chrétiens qui sont en bonne santé spirituelle, c'est évident, ils glorifient le nom du Seigneur. Des chrétiens qui sont tout le temps en vrac, ça, c'est sûr que ça ne remet peut-être pas en question leur salut, mais sérieusement, je ne sais pas si ça glorifie le nom du Seigneur. Des chrétiens qui développent tous ces aspects pour être, vous voyez, comme on l'a vu la semaine dernière, brisés quand j'ai commis un péché, ben, mon esprit il est brisé. Et bien, cinq minutes après, je me réjouis en Dieu mon sauveur parce que ben, je suis sauvé. Tout ça, ça contribue à l'équilibre. Mais si nous nous y exerçons, il y a les promesses pour la vie présente. Dieu a des promesses pour vous maintenant. Les jeunes, ça vous intéresse? Mais vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Sincèrement, parce que Dieu voit si vous répondez ou pas. Comment vous répondez à ma question? Parce que c'est peut-être pas moi qui vous la pose. Elle a la promesse, relisez-le s'il vous plaît. Exerce-toi la piété, dans le demain matin, hop, il y a des gens qui disent, oh, moi j'arrive jamais à faire mon culte personnel. Eh bien, ne le faites pas. Mais ne dites pas après au Seigneur, pourquoi je n'ai pas ces promesses présentes? Exercez-vous à la piété et vous allez voir que les promesses présentes, ou alors Dieu est un menteur. Mais moi là, je ne m'abuserai pas à m'entrer sur ce terrain-là, vous voyez. Un homme qui s'exerce à la piété, un jeune, un vieux, un riche, un pauvre, qui s'exerce à la piété, eh bien cette piété, elle est utile à tout. Elle a des promesses pour le présent et pour la vie à venir. Béni soit le Seigneur. Vous ne savez pas, moi, les jeunes, vous n'avez pas envie de connaître les promesses que Dieu a pour vous dans le présent? Vous n'avez pas envie de connaître les promesses que Dieu a pour vous, d'être sûr qu'il y a des promesses pour vous dans l'avenir? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Je m'exerce à la piété. Je vais faire des progrès. Je veux absolument faire des progrès. Paul dit aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 3, ne le cherchez pas. Votre foi fait de grands progrès. Regardez ce que Paul dit aux Thessaloniciens, que quand ils écoutaient la parole, ils la considéraient vraiment comme la parole de Dieu. Si ce soir je vous dis, mais exercez-vous à la piété, si vous me faites le coup de dire, oh mais moi monsieur Gaud, je suis crevé, j'ai pas le temps de faire mon culte le matin, moi je suis fatigué, mais ne le faites pas. Mais ne vous inquiétez pas non plus si votre foi ne fait pas de grands progrès. Vous vous rendez compte si je vous disais, ben, je vais faire le prochain marathon de New York, mais je ne me suis jamais entraîné, je cours, je fais 50 mètres pour aller chercher le pain, mais voilà, j'ai que ça pour faire... Vous me diriez, écoutez le marathon de New York, faites-le en voiture. Hein. Mais, vous me diriez, mais vous êtes ridicule. Non? Mais il y a des chrétiens, ils veulent les promesses de la vie présente, ils ne sont même pas sérieux avec un commandement aussi merveilleux, exerce-toi la piété. Elle a la promesse de la vie présente. Elle est utile à tout. Paul dit à Timothée, mais que tes progrès soient évidents pour tous. Est-ce que vous pouvez voir votre collègue et dire oui, tes progrès sont évidents? Est-ce que vous pouvez regarder celui qui est à côté de vous et dire oui, tes progrès sont évidents? Et Claudine, oui, Claudine, tu fais des progrès, c'est vrai. C'est drôle, mais elle fait des progrès. Je la connais bien, c'est drôle, hein, mais elle fait des progrès. Mais c'est beau quand... Non, mais c'est pas beau ça quand on peut dire à quelqu'un, mais tu as fait des progrès. Franchement, c'est pas une bénédiction quand une femme peut dire à son mari, tu sais, chérie, vraiment, je suis fier de toi, tu as fait des progrès. Et c'est comment on fait des progrès? Parce qu'on est meilleur que les autres? Mais bien sûr que non. On fait des progrès parce que on marche de progrès en progrès. C'est 1 Thessaloniciens 4. Regarde, on peut le lire ce verset. On est dans quoi? Dans Timothée. Regardez juste avant. C'est quand même. Franchement, moi, je suis peiné lorsque je vois des chrétiens qui ne font pas de progrès. C'est pourquoi? Parce que Dieu les aime pas? Non, parce qu'ils veulent pas en faire. Il faut pas rêver vraiment. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris, ça s'apprend tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est exactement ce qu'on fait là, en deux mardis. Et c'est là ce que vous faites. Donc, ils l'ont appris, mais ils le font. Nous vous prions et nous vous conjurons. Vous voyez, c'est plus qu'une prière. Il conjure, c'est-à-dire c'est comme une supplication parce que c'est important pour l'avenir de l'Église. Nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, si c'est pas le cas, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aime assez pour vous dire non, t'as pas fait de progrès,
si vous avez dans votre famille quelqu'un de chrétien, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aime assez pour vous le dire, dans la famille par exemple? Est-ce que vous avez quelqu'un vraiment que vous aimez, qui vous aime? Parce qu'il ne faut pas régler les comptes, hein. Attention, hein. Ça c'est pas sérieux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez vraiment, qui vous aime vraiment et qui pourrait vous dire, ben non, tu n'as pas fait de progrès, ça fait 10 ans, tu es toujours sur la même marche de l'escalier. Comment vous le prendriez si on vous disait, ben depuis 30 ans que tu es chrétien, non, tu n'as pas fait des progrès, mais même tu as même fait des progrès dans l'autre sens. Comment vous le prendriez? Allez, soyons honnêtes, on va. Mal? Mais si c'est vrai. Avant, tu t'énervais 5 minutes, maintenant, tu t'énerves 2 heures. Parce qu'il y a quand même des... Il y a quand même des textes. Franchement, il faut que ça soit pratique. Si une prédication n'est pas pratique, elle ne sert à rien. Mais comment m'examiner? Tiens, bon, on a vu ces textes. Franchement, si vous prenez tous ces textes, si vous y passez un mois dessus, je peux vous dire que ça va nous aider à nous exercer à la piété. Je prends le psaume 23, parce que c'est le psaume le plus connu. Quoique les gens le connaissent, mais en vérité, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Tu induis-le ma tête, puisqu'on parle du Saint-Esprit, d'accord? Tu induis-le ma tête, je prends le verset, et ma coupe déborde. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que notre vie spirituelle ne soit pas une vie spirituelle au rabais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une vie qui déborde. Bon, est-ce que ma vie déborde? Alors vous allez me dire, oui, mais ça déborde, mais peut-être pas toujours... Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai un peu de temps. Vous me donnez 5 minutes? Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de voir ce qui déborde. Vraiment. Est-ce que ma coupe déborde? Qu'est-ce qui déborde en ce moment? Quel que soit ce que je traverse, quelle que soit l'épreuve ou la bénédiction, qu'est-ce qui déborde? Quel est le fruit? Quelles sont les œuvres de la chair? Regardez bien, on va terminer avec ça. Je vous donnerai les textes tout à l'heure pour travailler. Vous allez... prendre le temps de méditer, faites-le, parce que je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Dans Matthieu au chapitre 23, du verset 13 au verset 36, vous avez un sermon que Jésus adresse à des pasteurs. Et c'est quand même un sermon extrêmement sévère. Il ne l'a pas dit à tout le monde, il l'a dit à des pasteurs, à des pharisiens, des hommes chargés d'enseigner la parole, comme s'il a prêché à des pasteurs aujourd'hui. Il va leur reprocher des choses terribles. Alors pourquoi il va les traiter d'hypocrites, de menteurs, d'aveugles, d'insensés, de serpents, de races de vipères? Enfin là, il met le paquet, hein. Franchement, excusez-moi l'expression. Mais là, on sent que le Seigneur veut les stopper dans leur folie. Ce sont des pasteurs. Alors on va lire ce qui nous intéresse. C'est important, mes frères et sœurs, parce qu'ils sont remplis, ces gens. Ils sont remplis. Verset 25. Regardez bien, c'est important. C'est important pour qu'on puisse, nous aussi, avoir cette honnêteté totale. Parce que nous ne soyons pas idiots, il nous est arrivé aussi d'être parfois hypocrites. C'est pas vrai? Bon. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du dedans du plat, et qu'au dedans, regardez, qu'est-ce qu'il est dit? Ils sont pleins. Ils étaient remplis. Bon, mais c'était pas le bon fruit quand même. Hein. De quoi ils étaient remplis? Ils étaient remplis de rapine et d'intempérance. Alors, mes frères et sœurs, à partir de ce maintenant, commence votre travail. Tiens, je veux savoir ce que c'est vraiment la rapine. Je veux savoir ce que c'est l'intempérance. Parce que ces gens-là, ils en étaient pleins. Au verset 27, et croyez-moi, si Jésus a été sévère, ce n'était pas pour les casser, c'était pour les aider. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont... pleins, ils étaient pleins, oui, pleins, mais pas de grâce. Pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes... De quoi ils étaient remplis? D'hypocrisie, d'iniquité. Donc voyez, le Seigneur... Alors qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, on l'a lu au verset 26. Nettoie, aidez-moi. Nettoie, premièrement... Tout ce chapitre, vous le lirez, est très sévère. Mais moi, ça me va dans le sens où je me dis, après tout, si Dieu est sévère, ben c'est bien. C'est bien. Vous êtes d'accord avec la sévérité de Dieu? Ben oui, si c'est pour mon bien. Moi, je me souviens la fois où Dieu m'a montré que j'étais un mauvais pasteur, mais je pleurais de joie, je peux vous le dire. Parce que j'avais demandé à Dieu du pain, il m'a donné du pain. Et si Dieu me montre quelque chose qui ne va pas, mais c'est une grâce. Ils étaient remplis, ces gens, ces pasteurs. Mais ils étaient remplis de rapine, d'intempérance, d'ossements desséchés, de toute espèce d'impureté, d'hypocrisie, d'iniquité. Quand vous lisez dans Luc 4, ne le cherchez pas, verset 80, ils furent, quand Jésus a parlé, ils furent tous remplis de colère. Tous remplis de colère dans la synagogue, tous. Vous verrez pourquoi. Ils auraient dû tous être remplis de joie, ils ont tous été remplis de colère. Alors il faut porter du fruit. Et c'est ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord pour être baptisé du Saint-Esprit ? Vous êtes tous d'accord pour être rempli, baptisé, immergé du Saint-Esprit ? Alors, je vais vous donner des expressions bibliques, vous allez les chercher. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est une évidence. Dieu le fera pas à votre place. Dites-vous bien, même si on dit « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit », il le fera qu'à une condition, c'est que vous le cherchiez. Alors, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ? Il est plein. Alors, vous chercherez ces expressions dans la Bible, une pleine paix. Une pleine paix, ça veut dire que votre cœur est plein de paix. Un plein pardon, une pleine joie, une pleine confiance, ça c'est dans l'Ancien Testament, une pleine conviction, une pleine assurance, une pleine victoire, une pleine vie, une pleine adoration, une pleine bénédiction, une pleine consolation, une pleine récompense. Alors, on va juste en lire une pour vous montrer que tout ça, c'est écrit, bien sûr. Alors, Romains 15, 29. On termine avec ça. Et mes frères et sœurs, je vous assure, c'est ça la vie de l'Esprit. Romains 15, 29. Regardez ce qu'il dit. Vous voyez, c'est ça la vie de l'Esprit. Regardez, quand même, c'est chouette ce qui est écrit. C'est la vie de l'Esprit, ça vous intéresse vraiment ? Oui, il y en a trois qui ont hoché la tête, c'est bien. Est-ce que la vie de l'Esprit vous intéresse ? Regardez comment Paul parle. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Alléluia. Vous voyez, quand vous développez la communion avec Dieu, quand vous cherchez Dieu, il y a votre esprit qui est envahi de l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas de culte personnel, c'est impossible. C'est impossible. Et un culte où ce n'est pas le cerveau qui domine, c'est le cœur qui domine. Paul avait une communion avec Dieu et il dit, mais je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même s'il a plein de combats, en vérité, il y a aussi plein de grâces et une pleine bénédiction. Vous n'avez pas envie de dire, tiens, je vais venir te voir, je viendrai avec une pleine bénédiction. Ça ne vous intéresse pas ? Je veux vous visiter, je voudrais être le pasteur de votre église, je voudrais venir avec une pleine bénédiction. Vous préférez ça ou que je suis plein de découragement, je suis plein d'intempérance, plein d'hypocrisie ? C'est écrit. En tous les cas, on est ce qu'on veut devenir. Alors vous allez travailler, tous les pasteurs là, stagiaires ? J'en ai tout d'un coup quelques-uns, ça va faire du travail. Mais je crois que ça vaut la peine de travailler ces choses. Vous le travaillerez ? Et mardi prochain, à moins que le Seigneur soit revenu, eh bien peut-être on abordera ces choses. Mes frères et sœurs, soyons remplis du Saint-Esprit. Et ça, il ne faut pas qu'à l'église on soit soucieux de cela, que c'est intéressant, c'est émoustillant, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, si je fais n'importe quoi après, si je regarde n'importe quoi, si vous ne faites pas votre culte jusqu'à dimanche, tout ça, ça tombe à l'eau. Donc on va se mettre à cela et vous allez voir comment le Saint-Esprit va vous étonner. C'est avec une pleine bénédiction que j'irai, partout où j'irai. Alléluia.